Bonjour à toutes et à tous, je suis Christine Carrier, je suis la directrice de la Bibliothèque publique d'information et je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cette salle du Centre Pompidou. Très heureuse donc d'inaugurer la matinée consacrée à la place du jeu vidéo dans nos établissements et intitulée « Le jeu vidéo au service des institutions culturelles ». Elle est réalisée avec le soutien de l'association Images en Bibliothèque, à qui je laisserai la parole tout à l'heure, qui a inclus depuis quelques années le jeu vidéo dans ses domaines de compétences et qui, chaque année, propose une formation de 3 jours, ici, à la bibliothèque, sur cinéma et jeux vidéo. Cette matinée d'études s'inscrit dans le festival Press Start, festival de jeux vidéo de la bibliothèque qui a entamé mercredi sa 9e édition. Press Start, c'est l'occasion de faire découvrir les coulisses du jeu vidéo grâce à une programmation diversifiée. Des rencontres, des ateliers, des conférences, mais aussi, bien sûr, l'expérience du jeu proprement dite. Vous pouvez découvrir, retrouver tout le programme de Press Start dans les flyers, tels que celui-ci hein, qui était à l'entrée, mais aussi, bien sûr, sur le site de la bibliothèque. La BPI s'est lancée dans le jeu vidéo en 2013 avec la création d'un nouveau service, le service Nouvelle Génération à destination des adolescents et des jeunes adultes. Tous les jours, dans la bibliothèque, les usagers peuvent donc accéder librement à des consoles de jeux PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 et bientôt la PS5. Je ne sais pas à quelle date, Émilie, la PS5. On l'a déjà. On va l'installer, donc. La BPI puise dans sa collection de plus de 400 jeux vidéo pour proposer une sélection de jeux allant du blockbuster aux jeux indépendants plus confidentiels. Chaque premier mercredi du mois, on a donc un rendez-vous fixe toute l'année, le salon en jeux vidéo propose une médiation thématisée et qui est accompagné par un collègue spécialiste du jeu vidéo que j'ai vu tout à l'heure, qui est même en face de moi, par Marc Guillemot. Merci Marc. Le but est de faire découvrir des jeux diversifiés, de les expliquer pour les plus néophytes, ou bien d'en débattre avec des publics qui sont, bien sûr, plus connaisseurs. L'année et demie que nous venons de passer a montré, si besoin était, la place importante occupée par la pratique vidéoludique dans la vie de millions de gens. Le jeu vidéo, première industrie culturelle mondiale, est sorti encore renforcé des mois de confinement que nous avons vécu. Et l'on se souvient que les magasins spécialisés ont d'ailleurs fait partie des commerces essentiels autorisés, au même titre, autorisés à ouvrir bien sûr pendant le confinement, au même titre que les librairies et les disquaires en mars dernier, et bien sûr que les bibliothèques. C'est cette pratique culturelle majeure qu'entend suivre et même accompagner la bibliothèque à travers de ses différentes actions. Les mois écoulés, parfois difficiles, ont été pour beaucoup d'entre nous l'occasion de se réinventer pour aller chercher des publics, habitués ou nouveaux, qui n'étaient plus possibles d'accueillir comme avant dans nos espaces. Il a fallu mobiliser tous les outils et toutes les ressources à notre disposition pour maintenir le lien et peut-être même aller au-delà de nos pratiques habituelles. Le jeu vidéo a pu être l'un de ces leviers. Plus largement, il s'impose de plus en plus comme un outil de médiation particulièrement pertinent pour nos institutions en quête de nouveaux publics et de pratiques innovantes. Il n'est ni un palliatif, ni un gadget, mais offre de vraies potentialités pour nos institutions, que ce soit en termes de lien social, de pédagogie ou d'inclusion. Je souhaite particulièrement insister sur ces 3 termes. Hein, ce n'est pas que jouer pour jouer. C'est aussi pour nous, à notre service, des outils qui peuvent nous permettre de créer d'autres liens avec nos publics. Cette matinée dédiée aux professionnels des bibliothèques dans un projet plus global de coopération nationale sera à nouveau l'occasion de partager les expériences de chacun et de multiplier les regards sur les pratiques vidéoludiques. Je remercie vivement tous les collègues venus nombreux qui sont aujourd'hui dans cette salle ou qui nous regardent en ligne, puisque je crois que nous avons 327 inscrits en ligne. Ces inscrits sont bien sûr majoritairement français, mais nous avons aussi des inscrits à l'étranger. Alors, ils sont peut-être français à l'étranger, mais en tout cas, nous avons aussi des inscriptions étrangères. Nous sommes donc heureux de pouvoir la diffuser et de la rendre accessible aux collègues en situation de handicap. Et merci, madame, pour votre travail. La BPI a cette année sensiblement renforcé l'accessibilité du festival pour les publics sourds et malentendants. Plusieurs ateliers, rencontres et médiations ont bénéficié ou bénéficieront d'une traduction LSF ainsi que d'un sous-titrage en direct pour certaines diffusions en ligne. Vous pourrez bien sûr les identifier sur le programme. Lors de cette matinée d'études, il s'agira de vous présenter et de vous faire découvrir, peut-être, différentes expériences ou projets de médiation par le jeu vidéo menés par des établissements très divers. Nous avons vu dans cette thématique l'occasion d'aborder notamment la double question de l'accessibilité des jeux vidéo et de leur utilité pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, question qui nous accompagnera toute la journée puisque de 14h30 à 17h30, vous pourrez, si vous le souhaitez, assister dans la bibliothèque à des ateliers et des présentations de dispositifs destinés à sensibiliser à cette question, mais aussi à rendre concrètement accessibles jeux vidéo et périphériques. Je tiens à remercier les intervenants de la journée, le service de la régie qui nous accompagne dans cette salle et les services qui ont œuvré à l'organisation de cette journée, et tout particulièrement le service Nouvelle Génération et les équipes qui sont présentes et qui vont vous accompagner toute la journée. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une agréable journée sous le signe du jeu vidéo. Bonne journée.
Bonjour à tous et à toutes. Alors moi je suis Adèle Calzada d'Images en Bibliothèque. Je suis juste là pour vous dire un petit mot de bienvenue. Alors si vous ne connaissez pas Images en Bibliothèque, je vais vous en dire juste l'essence et puis vous pourrez retrouver plus d'informations sur notre site. Donc Images en Bibliothèque est l'association qui coordonne les bibliothécaires qui travaillent sur les images animées et le cinéma. On accompagne vraiment les pratiques professionnelles à travers notamment des formations professionnelles dont je m'occupe. Et Christine, à l'instant, a parlé de notre formation sur les jeux vidéo et le cinéma qu'on organise ici même. Donc c'est depuis 2017 qu'on a créé ce stage en partenariat avec le service Nouvelle Génération de la BPI. Donc c'est une formation de 3 jours qui explore les liens entre jeux vidéo et cinéma. À la fois du côté de la théorie, on va dire, voilà, on découvre beaucoup de films et de jeux, mais aussi du côté de la gestion d'un fonds et des actions de médiation. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a renforcé vraiment notre activité autour du jeu vidéo, mais aussi de la réalité virtuelle. Enfin, depuis quelques années, on explore ces sujets-là. Donc c'est avec grand plaisir qu'on le fait en partenariat avec la BPI. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à vous remercier de nous avoir associés à cette journée, parce que c'est un grand plaisir. Je vais pas en dire beaucoup plus. Bonne journée à tous et bon festival Prestart.
Merci Christine, merci Adèle. Rassurez-vous, ce n'est pas un discours supplémentaire. Je suis juste là pour broder un petit peu pendant que les intervenants s'installent. On est très heureux, vraiment très heureux de vous retrouver. On avait pu monter l'édition de Prestart. Déjà l'année dernière, on était passé entre les mailles du Covid dans une édition qui était un peu ramoindrie, mais qui aujourd'hui va pouvoir s'étendre dans les projets qu'on voulait monter. Et donc la troisième édition de cette matinée d'études. Alors le programme est... On a essayé de réunir deux choses qui peuvent paraître peut-être un peu éloignées au départ, mais qui sont deux choses qui sont connexes, en se demandant qu'est-ce que le jeu vidéo peut apporter à nos institutions culturelles et qu'est-ce qu'on peut faire avec du jeu vidéo qui relève de nos missions. Et finalement, deux perspectives différentes. La première table, qui va être animée par Émilie Fissier, chef du service Nouvelle Génération, avec plutôt des gens qui sont... pas exactement des bibliothèques, mais plutôt des musées, en se demandant est-ce que le jeu vidéo peut servir nos projets de médiation, que ce soit pédagogie, que ce soit de découverte, ou que ce soit simplement un accès à la culture. Et dans une deuxième partie, dans effectivement ce qui a été une priorité du festival, qu'on a essayé de développer depuis 3 ans et qu'on amène aujourd'hui à une certaine maturité, sur la question de l'accessibilité, est-ce que par le jeu vidéo, et comment on va pouvoir réussir à intégrer la diversité des publics ? Je reviendrai sur Prestart et le programme. On vous a concocté une petite après-midi tout à fait sympathique sur ce thème, mais je vous en donnerai le détail et je laisse immédiatement la parole à Émilie et à ses intervenants. Bonne matinée à tous.
Merci Nathanaël. Merci à toutes et tous d'être là. Merci à vous quatre d'avoir accepté de participer avec moi à cette table ronde autour du jeu vidéo comme outil de médiation et de pédagogie pour nos institutions. Je vais faire un rapide tour de table de présentation. Ensuite, on parlera des projets. Et puis ensuite, la discussion est ouverte. Je commence par toi, Léo. Léo, donc, qui est médiateur scientifique pour les musées d'Angers, et notamment pour le Muséum d'Histoire Naturelle. Vous verrez que ça a son importance tout à l'heure. Pierre-Alban Ferrer, tu as commencé ta carrière de game designer sur du Serious Game, il y a une dizaine d'années à peu près, puis sur du jeu mobile, et avant de rejoindre en 2018 le projet Reveal, porté par la chaire de jeux vidéo de Polytechnique, au tout début de sa conception. Ahmed Majdoubi, tu es game designer et game developer, notamment dans le domaine du Serious Game, et tu enseignes également le game design à Isard Digital Paris, l'école de jeux vidéo. Et enfin, Augustin Pagenaud, tu es adjoint à la chef du service de la médiation culturelle du Centre Pompidou. Merci à tous les quatre d'être avec moi ce matin. Alors, on commence tout de suite. On va faire un petit tour de table de vos projets respectifs, parce que j'imagine que bon, certains d'entre vous doivent peut-être connaître les projets dont on va parler, mais pas tout le monde, donc c'est l'occasion pour vous de les découvrir. On commence par toi, Léo, si tu veux.
Ok. Très bien, donc déjà merci de m'avoir invité pour cette matinée. Moi je travaille pour les musées d'Angers, et donc lors du premier confinement, on a lancé des visites virtuelles sur un jeu dont vous avez sans doute entendu parler, qui est Animal Crossing, notamment le dernier sorti en date, donc New Horizon, qui est sorti au même temps en fait que le premier confinement. Donc c'était le 20 mars, je crois, 2020. Et donc, on a proposé, à partir d'avril 2020, des visites virtuelles dans ce jeu. Alors, Animal Crossing, pour expliquer un petit peu à quoi cela ressemble, c'est un jeu bac à sable dans lequel on peut faire un petit peu ce que bon nous semble. Et dans ce jeu, il y a un musée. Donc, chaque joueur a le même musée. Et ce musée, il faut le garnir de collections. Donc, ce sont des fossiles que nous allons trouver, des poissons, des insectes ou encore des œuvres d'art. Et ce musée a été très soigné dans ce jeu, il y a une belle scénographie, mais il manque tout de même des informations sur les spécimens qui sont présents dans ce jeu. Ce sont de vrais spécimens, mais il manque des informations. Et comme ce jeu il est accessible également en ligne, on peut inviter d'autres joueurs à venir dans son univers, notamment sur les images, vous voyez des groupes de personnes, un groupe de visiteurs. Et l'idée, c'était de faire une visite virtuelle. Donc, on se connectait sur le jeu, on se rendait sur mon île, et puis en parallèle, on discutait sur Skype pour pouvoir réellement échanger sur ce que nous voyons dans le musée. Donc, l'idée, c'était de faire une visite de musée, mais virtuellement. Donc, là, vous avez quelques exemples avec la salle de paléontologie, par exemple, et également une salle dédiée aux poissons, aux insectes. Et puis également aux œuvres d'art. Bon, je ne parlais pas d'œuvres d'art parce que je n'ai pas les compétences pour, mais il y avait déjà beaucoup de choses à dire sur les spécimens présents dans ce jeu.
Merci Léo. On passe peut-être au projet Reveal, Pierre Alban.
Oui, bonjour à tous, merci de nous accueillir. Au sein de la chaire sciences et jeux vidéo donc de l'école polytechnique, et même un peu avant le début de la chaire, on a commencé à développer un jeu vidéo. Comment c'était la troisième, qui parle de physique des particules et qui s'appelle Reveal. Donc ça, c'est un de nos premiers artworks, on va dire, enfin, ou un des artworks en cours, donc qui montre qu'on est plutôt sur un jeu type plateforme, donc on est sur un jeu quoi. Et voilà, et on va avoir la science peut-être si tu... Ah, sur la précédente. Voilà. On va intégrer de la science de la physique des particules, notamment via des événements et de la résolution de motifs en fait, de physique des particules comme ça. Ça, c'est une image issue d'un prototype, hein, donc c'est vraiment, vraiment en cours. Mais là, par exemple, on voit un beau rayon cosmique qu'il va falloir décrypter un peu. Et si on va un tout petit peu plus loin, on a aussi généré, donc pour faire le lien vraiment un peu plus avec la science encore, on a générer un générateur d'événements de physique des particules donc qui devrait être accessible en ligne sous peu normalement. Donc ça sert à la fois les scientifiques et ça peut servir aussi pour la curiosité. Sachant que là, comme on le voit, en fait, certains points, sont ceux où il y a un plus, en fait, sont zoomables, c'est-à-dire que le générateur va nous permettre de descendre dans un événement de physique des particules jusqu'au plus petit élément connu. Voilà, globalement.
Merci Pierre Alban. Et enfin, Augustin et Ahmed, si vous voulez bien nous parler de Prisme 7, le jeu vidéo développé par le Centre Pompidou.
On va vous parler à deux voix de Prisme 7, qui est le premier jeu vidéo donc, du Centre Pompidou. À la genèse, il y a un appel à projet du ministère de l'Enseignement et de la Jeunesse pour répondre à notre volonté au centre de décaler et montrer différemment toute la création moderne et contemporaine, qui est parmi ici, et de répondre à des enjeux de médiation pour un public scolaire et un public jeune, manipulant un outil différent et décadrant un peu la manière dont on peut découvrir une collection et découvrir des œuvres. Le travail a été réalisé en co-conception avec les équipes de la médiation culturelle du centre, mais aussi avec Game in Society et Bright, et aussi avec l'IRCAM pour tout le design sonore. Le jeu trouve une résonance évidemment toute particulière puisque le travail a été fait en 2019 mais est sorti lors du premier confinement et nous permettait, je dirais, d'accomplir la volonté d'une expérience immersive dans la collection et en fait dans la création contemporaine à travers de thématiques importantes comme la lumière et la couleur à un moment où notre enceinte était fermée. Donc c'est un projet pour nous particulièrement important qui d'ailleurs se décline dans un module physique que d'ailleurs on déploie dans des médiathèques ou dans en tout cas des structures scolaires pendant une période un peu plus longue qui permettent de découvrir toute une exploration autour de la création et des œuvres. Je vais essayer de parler davantage de l'exploration elle-même.
Bonjour, donc Ahmed Majdoubi. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur Prisme 7, donc j'ai été contacté par Game Society pour intervenir sur le projet en tant que game et level designer indépendant. La première chose qu'on a voulu faire sur le projet, c'était d'éviter surtout de proposer aux joueurs un serious game qui se veut en fait un formulaire scolaire déguisé. Et de leur proposer un vrai jeu, déjà. Un vrai jeu qui allait puiser dans les mécaniques connues de jeux vidéo, mais également proposer de nouvelles mécaniques jouant sur la perception, sur la réflexion, faire des allers-retours au sein des niveaux pour trouver des éléments, jouer sur un petit peu l'économie du jeu en proposant des petites particules que vous voyez ici en rouge qu'on doit récolter, qui vont nous permettre de débloquer le passage, mais également des gemmes bleues qu'on va activer ou qu'on va récolter et qui nous permettent d'afficher ou d'avoir accès à une galerie dans laquelle on va exposer un petit peu toutes les œuvres ici qui sont exposées ici au Centre Pompidou. Donc nous avons commencé par définir les principales versions de couleurs, par exemple la couleur fonction, la couleur émotion, la lumière physique, etc. Pour les utiliser comme thématiques pour les niveaux, il y a 7 niveaux, et dans ces 7 niveaux-là, on a une approche différente à chaque fois, que ce soit dans la technique utilisée, l'approche de l'artiste et la finalité. Parce que quand on a terminé un niveau, en fait, et j'espère que les joueurs là, ils se seront rendus compte, mais on laisse derrière soi une espèce d'œuvre d'art concrètement, parce qu'on a, au fur et à mesure de notre progression dans le jeu, on a changé l'état des différentes mécaniques, des différentes composantes de ce niveau-là, et ça laisse en fait une espèce d'œuvre d'art personnelle, parce que chaque joueur va aborder le niveau d'une manière différente. Et, en tout cas, j'espère que le public cible à ce niveau-là se sera rendu compte et que ils se seront amusés tout en ayant appris des choses sur ce jeu.
Merci à tous les deux. Alors, ma première question maintenant pour vous quatre, qui va se poser un peu différemment, hein, bien sûr, en fonction de vos différents projets et des différentes médiations que vous avez créées. Pourquoi le jeu vidéo ? Comment le jeu vidéo s'est imposé dans la création de ces projets-là, qui sont de médiation aussi et de vulgarisation ? Pourquoi être allé vers le jeu vidéo et comment ça s'est fait tout ça ? Pierre Alban, tu veux répondre en premier ?
Donc pour nous, c'est vraiment parti d'un chercheur en physique des particules, hein, Raphaël Garnier-Cassagnac, qui avait un peu de fonds pour faire de la valorisation de sa science. Parce que c'est une science qui n'est pas facile à forcément ni à vulgariser, ni à valoriser en tant que telle. Et donc l'idée sur laquelle il est parti, c'était de faire un jeu vidéo. Donc au départ, parti sur un jeu mobile, il y avait vraiment cette intuition-là. Donc il a recruté un développeur, puis après je suis arrivé, on a vraiment remis à plat un peu le concept du jeu. Et petit à petit, ça a grossi, on est devenu une chaire, donc maintenant on est un groupe un peu plus important.
Oui, tu peux dire deux mots sur la chaire d'ailleurs, si tu veux.
Ouais, alors si vous voulez en savoir plus sur la chaire, demain il y a notre chef de projet Catherine qui va intervenir, elle a présenté plus longuement demain après-midi. Mais sinon, oui, c'est une chaire en partenariat avec Ubisoft, donc qui a trois missions qui se reflètent par donc qui a éduqué par le jeu, donc c'est plus un peu ce qu'on fait, c'est-à-dire faire un jeu qui va essayer d'apprendre des choses aux joueurs. On a des projets de recherche étudiants donc, qui sont à la frontière entre la science et le jeu. Donc comment la science peut faire avancer le jeu. Et on donne aussi des cours aux étudiants polytechniciens pour faire des jeux vidéo, donc ça c'est nouveau pour eux. On a aussi un colloque qui se tient une fois par an, qui vise à faire se rencontrer des gens du milieu du jeu vidéo et des scientifiques, qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler et qui, des fois, ça fait des étincelles et c'est assez chouette. Donc, voilà. Et donc, pour
et donc,
revenir à la question initiale...
Ouais, donc ça,
c'était plus une intuition de... Voilà, ça paraît être le bon média. Donc, Raphaël avait vraiment aussi cette connaissance du jeu vidéo et ses souvenirs, en fait, d'avoir appris, par exemple, l'évolution des techniques grâce à l'arbre technologique de civilisation. Alors, évidemment, c'est pas forcément... un pour un, mais globalement, voilà, il y avait ce souvenir qu'il y a moyen de faire passer quelque chose. Et nos différentes discussions avec d'autres personnes, notamment avec David Lois, prophète de Science Étonnante sur YouTube, nous ont un peu conforté dans cette idée, en fait, que c'était un média qui permettait, en fait, de maintenir l'utilisateur relativement captif, en fait, pendant des sessions assez longues, en fait, et donc de vraiment avoir le temps de faire passer un message plus que peut-être parfois devant une œuvre dans un musée où on va peut-être passer un peu rapidement, et plus aussi que parfois une vidéo YouTube qui va être bon, bah, au bout de 7 minutes, on passe à autre chose, etc. Donc il y a vraiment aussi cette question de rétention. Donc je pense que petit à petit, en fait, l'intuition que le jeu vidéo était le bon format s'est confirmée au fur et à mesure.
D'accord. Mais du coup, c'est très intéressant parce que tu me permets de faire la transition. Tu parlais d'œuvre d'art. Est-ce que la réflexion sur justement l'œuvre d'art, le fait qu'on se concentre peut-être pas forcément toujours de la même manière et pas de manière très longue dans les musées, mais pas que, alors qu'on peut le faire par le jeu vidéo, est-ce que c'est une réflexion que vous avez eue aussi pour Prism 7 ou pas du tout, c'était d'autres motivations?
Je pense que le premier élément de réponse, c'est de concevoir au centre la médiation, on l'envisage beaucoup comme décadrée, ou en tout cas voir différemment, ou avoir une expérience différente des œuvres qui sont exposées, qu'on peut avoir dans une visite libre. Qu'elle peut être chantante, chorégraphiée, jouée ou dans la pratique même de la matière, dans les ateliers. Le jeu vidéo, c'était une manière de proposer une expérience complètement immersive, en solitaire, dans l'œuvre et dans ce qui crée l'œuvre, de vraiment pouvoir rentrer dans la création d'un artiste, presque dans son atelier, et dans l'œuvre elle-même, dans toutes ses composantes, qu'elles soient la lumière, la couleur, le passage entre un thème et tout ce cheminement-là. Donc le jeu vidéo, c'est une manière vraiment intéressante de littéralement mettre en main et faire, c'est une dynamique en fait, au cœur de toute la médiation de Centre Pompidou depuis sa création. L'autre point, je pense, qui est particulièrement intéressant ici, c'était de proposer à des publics qui connaissent peut-être moins ou sont moins sensibles à la création contemporaine. Il y a beaucoup d'œuvres contemporaines, des œuvres qui intrinsèquement travaillent la lumière, la perception, sont rendus perceptibles et accessibles à des publics n'importe où. Et d'ailleurs, n'importe où en France, ou ailleurs, parce que le jeu est traduit en français, en anglais, en espagnol et en mandarin. Donc, cette dynamique-là, elle était double. C'était à la fois faire voir différemment où qu'on soit et où qu'on soit, spatialement.
D'accord. Merci, Ahmed. Tu veux rajouter quelque chose
ou... Oui. Déjà, moi j'en suis convaincu depuis longtemps. D'ailleurs, j'ai travaillé plus de 5 ans dans une société qui s'appelle The Good Drive, qui crée en fait un logiciel d'apprentissage, concrètement un serious game, qui est un simulateur de conduite à destination des élèves d'auto-école. D'accord. Donc, on sait que pour faire passer l'information et même les émotions, le jeu vidéo est un outil aussi puissant que la musique, le cinéma, c'était pas encore plus puissant que ça. Donc, on a essayé à ce niveau-là, je remercie le Centre Pompidou qui a été assez flexible pour que, justement, on propose un jeu où on s'amuse et qui permet, en fait, une certaine accessibilité par son fun au public recherché, par son accessibilité également, l'accessibilité des contrôles, les visuels, le fait qu'on ait travaillé, œuvré à ce que toutes les situations soient résolvables facilement sans trop de casse-tête, parce que le but aussi dans Prisme 7, c'est qu'on découvre l'œuvre dans son intégralité et qu'on ne soit pas bloqué à un certain moment parce que le level designer ou le game designer a décidé de mettre un certain niveau de challenge. Donc, c'était aussi des choses qu'on a essayé de garder en tête tout au long de la production du jeu. Et c'est par la suite qu'on s'est rendu compte que en faisant les niveaux petit à petit, que c'était des niveaux où on apprenait justement, moi-même étant game designer, je ne suis pas forcément ultra sensible à tout ce qui est art contemporain, mais j'ai commencé à découvrir les artistes, à découvrir leurs œuvres, à découvrir leur technique, et c'est très prenant. Et en même temps, donc, on a un jeu qui est à la fois divertissant, mais qui propose, qui fait passer un message. Et personnellement, sur tous les produits sur lesquels j'ai travaillé, j'en ai fait pas mal, le jeu vidéo véhicule toujours un message. Il y a toujours quelque chose derrière. On ne fait pas un jeu juste pour faire un jeu. On fait un jeu parce qu'on a envie de dire quelque chose. C'est justement ce que j'enseigne à mes étudiants à ISART. Le jeu vidéo, c'est un canal de communication tout aussi puissant que toutes les autres formes d'art et de divertissement. Voilà.
Merci Ahmed. Alors Léo, la question pour toi, elle se pose de manière un peu plus, disons, peut-être contrainte, parce que tu as commencé à cause du confinement, en fait. Mais comment t'es venue l'idée?
Je sais tout même grâce au confinement.
Ouais, grâce au confinement.
C'est presque un alignement de planètes. Parce que, en fait,
est-ce que c'était une envie que t'avais depuis longtemps ou...
Eh bah, bien, sans doute enfouie en moi, mais c'était pas encore révélé. Et en fait, avec la sortie d'Animal Crossing et le confinement, et en jouant à Animal Crossing, l'idée est venue. C'est parce que, justement, en jouant à Animal Crossing, il y avait ce musée qui était très bien réalisé. J'avais envie de l'exploiter, en fait. Et je suis tombé face à un jeu qui... Bah, c'est révélé être un bon vecteur de médiation. Et donc derrière, on a développé ces visites. Et bien sûr, ce qui est très sympathique, c'est que du coup, ça donnait envie d'exploiter d'autres jeux par la suite. Mais vraiment, c'est venu en fait du jeu, du contexte du confinement. Et donc ensuite, cela s'est développé. Et parce que Animal Crossing aussi, moi j'ai joué aux premières versions, sorties sur GameCube il y a quasiment 20 ans maintenant. Et j'ai des souvenirs de certains noms de poissons qui me sont restés parce que j'ai passé des heures à pêcher des goujons, des bars, des ombles. Et en fait, ces noms, si je les connais...
Les autres loches des thons.
Voilà, exactement. Si je les connais, c'est parce que j'ai joué Animal Crossing en fait, étant gamin. Et donc, finalement, je me suis rendu compte que ce jeu, on pouvait vraiment l'exploiter comme outil médiation. Et puis, comme disait Augustin ou Ahmed, nous, au Musée d'Angers, on exploite la danse, la musique, le cinéma. Mais le jeu vidéo, on commence tout juste à imaginer le jeu vidéo comme un support de médiation, alors qu'il est tout aussi légitime que les autres arts dont on parlait précédemment.
Et alors justement, vous avez commencé à l'évoquer tous les quatre dans vos réponses. Quels sont les publics que vous avez visés spécifiquement dans la conception des projets? Qui veut répondre?
Nous, on a particulièrement travaillé sur un public scolaire, d'âge de principalement 6-12 ans, avec, on va dire, plutôt 6-16, puisque le collège et le lycée. Principalement, je pense que une démographie d'utilisateurs et utilisatrices de téléphones, d'applications, de jeux, qui pourraient l'utiliser aussi bien de leur propre accord. En l'occurrence, quand le jeu est sorti, il n'y avait ni école, ni musée. En tous les cas, la pratique devait être en effet en solitaire. Et par la suite, de la rendre disponible dans des structures d'enseignement.
Moi, c'est intéressant, en fait. Donc, le public cible, c'était justement un jeune public entre 6-12 ans. Mais ayant participé, en fait, au stand du jeu lors de la Game Week, la dernière Game Week qui était possible en 2019, j'ai été vraiment très surpris de voir que, à la fois, on avait... les jeunes, et vraiment les très jeunes de 6, 7, 8 ans, qui étaient vraiment très pris au jeu et qui avaient abordé le jeu de manière, on va dire, très au niveau, juste en essayant de résoudre les puzzles, en déambulant dans les niveaux et essayant d'atteindre la sortie le plus vite possible. Mais les moins jeunes, là, pour le coup, ils avaient une approche un peu plus réfléchie de « Ah, je reconnais ce lieu, mais c'est le premier niveau, ce serait Pompidou par hasard ?» Et donc, ils avaient en fait cette deuxième lecture du jeu. Et par la suite, on a retrouvé en fait des vidéos sur YouTube et d'autres sites où on voyait en fait des jeunes enfants ou des jeunes avec leurs parents qui étaient en train de jouer et qui en fait collaboraient justement pour résoudre les puzzles et en même temps le parent qui expliquait certaines notions ou qui était plus pour qu'on prenne le temps de lire telle ou telle description de telle ou telle œuvre pour comprendre ce que... Donc je trouve que le jeu a finalement réussi à toucher un peu un public plus large. Et de par déjà son esthétique, de par son approche, de par son accessibilité, et que j'espère en tout cas, ça a donné envie aux parents, mais également aux jeunes, de venir découvrir justement ces œuvres-là en physique lorsque les musées sont ouverts.
Et j'ajouterais, le jeu contient un certain nombre de ressources éducatives et pédagogiques à destination. En fait, initialement, aussi bien des parents que des enseignants et enseignantes. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en effet, la découverte du jeu et cette logique de niveau et d'environnement complètement différent, en fait, a touché beaucoup d'adultes et beaucoup d'enseignants et d'enseignantes qui étaient sans doute initialement intéressés par le contenu pédagogique, par les fiches d'œuvres et de thématiques, mais qui en réalité avaient très envie de savoir quelle allait être la nouvelle thématique, le nouvel univers du prochain niveau, etc., qui pousse donc à avancer et à finir finalement l'expérience.
Et justement, ces adultes-là dont vous parlez, les parents ou les enseignants, peut-être que vous n'avez pas échangé sur ça avec eux, mais si vous avez pu le faire, est-ce que c'était plutôt des gens habitués aux jeux vidéo et du coup habitués à échanger autour des jeux vidéo avec leurs enfants, ou pas du tout, c'est des gens qui sont laissés prendre au jeu comme leurs enfants et...
Je n'ai pas une étude quantitative approfondie sur le sociotype des joueurs adultes de Prisme Z, mais ce qu'on a vu, c'était principalement enseignants et enseignantes qui ne semblaient pas avoir une culture vidéoludique forte, mais qui, à l'inverse, avaient un peu touché l'opportunité parce qu'une ressource éducative, et s'étaient laissé prendre littéralement au jeu.
D'accord. Alors, Pierre Albon, sur la physique des particules, le public visé. Ouais.
Alors, on va dire notre cœur de cible, ça va être collège, lycée, pas mal lycée, et on va étendre, si on prend étendu en termes d'âge, 15-35 à peu près. Mais c'est peut-être pas l'élément qui définit le mieux notre cible, parce que ce qu'on cherche à viser aussi, c'est les personnes qui sont un peu passées à côté des sciences, en fait.
C'est-à-dire, oui, on va essayer plus large de... que juste la tranche d'âge que tu indiques.
Ouais, voilà, c'est plus la physique des particules. J'en ai vaguement entendu parler. Je sais pas dans Star Wars peut-être, non, peut-être. Enfin, en fait, pas du tout, mais c'est peut-être l'impression que je vais en avoir. Je veux en savoir plus. Et le but de notre jeu, c'est plus d'être une porte ouverte vers plus de connaissances, parce qu'on sait très bien que sur un jeu de, mettons, une dizaine d'heures, on va pas vous apprendre la physique des particules, c'est beaucoup trop compliqué. Mais c'est plus, effectivement, un peu comme l'arbre technologique de civilisation dont on parlait tout à l'heure. C'est peut-être une porte ouverte à vouloir en savoir plus et à aller chercher plus et à se dire, OK, j'ai compris quelques éléments. Donc, on joue beaucoup avec la science et on vise aussi un public plutôt joueur, en fait, de base. C'est-à-dire qu'on vise effectivement une certaine accessibilité, mais peut-être pas de mettre le jeu entre forcément toutes les mains initialement. Donc on va viser un public joueur, donc il y a peut-être déjà aussi cette appétence à l'exploration, à la découverte. Voilà, globalement pour la cible. Et puis pour affiner là-dessus, il y a un des mottos qu'on a depuis le début qui est « Science for all, fun above all », en fait. C'est-à-dire, le but, c'est d'abord de faire un jeu fun. Si on apprend quelque chose, c'est super. Si on n'apprend rien, on est passé un pas à côté, c'est dommage, mais c'est pas très grave. Parce qu'on aura quand même eu des notions, et malgré tout, en jouant, en fait, les mécaniques qu'on met en place dans notre jeu de plateforme, ce sont des mécaniques qui sont directement inspirées de la physique des particules, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir des pouvoirs, en fait, qui vont répondre à des concepts de physique des particules qui sont très, très précis et établis, quoi.
Et pour les non-anglophones, c'était science pour tous, mais le fun avant tout.
Pardon.
Merci Pierre-Alban. Léo, toi, du coup, tu as eu... Alors, je ne sais pas si tu avais un public cible quand tu as monté le projet. Peut-être que si. Et en tout cas, quel type de public tu as eu?
Eh ben, en fait, on ne savait pas forcément qui allait s'inscrire au début à ces visites. Donc, on a prévu un parcours pour un grand public. Et en fait, à la suite de cela, on a envoyé un questionnaire aux personnes qui ont participé à cette visite virtuelle, et on a eu pas mal de réponses. Et c'était très intéressant parce qu'on a touché un public assez large, et un public qu'on n'a pas l'habitude de toucher, en fait, dans nos musées. Donc, que ce soit des jeunes étudiants, des jeunes trentenaires, on avait également des familles, parce que souvent, en fait, derrière un avatar, il n'y avait pas qu'une seule personne, il y avait souvent plusieurs personnes derrière la console. Souvent, c'était les parents avec les enfants, un couple, des copains. Donc, en fait, on a touché un public vraiment qui n'est pas habitué à venir parfois même au musée. On posait la question dans ce questionnaire de savoir si ces personnes avaient l'habitude de venir visiter des musées de sciences naturelles. Et pour une grande partie d'entre eux, les dernières visites remontaient à plus de 5 ans. C'était souvent des visites, pour eux, c'était des souvenirs d'enfance, des souvenirs d'école avec les grands-parents, mais ils avaient un peu oublié ce qu'était un musée, ou en tout cas, ils avaient oublié que les musées, ils pouvaient aller dans ces musées de sciences naturelles. Donc, c'est aussi une réussite pour nous, ce dispositif, parce que ça a permis de toucher un public qui n'a pas l'habitude de venir, en fait, nous voir dans les musées de sciences naturelles, notamment.
Et donc, du coup, tu n'as pas eu que des gens qui étaient dangereux?
Et en plus, on a touché un public plus large géographiquement, forcément, parce qu'on était virtuel. Donc, assez peu, finalement, d'angevins, des personnes vraiment des quatre coins de la France, même de La Réunion, on a eu le Canada, Belgique. Donc, on a touché un public aussi large à ce niveau-là. Et donc, l'idée, c'était aussi de promouvoir les musées de sciences naturelles et d'inviter, justement, ce public virtuel à ensuite pousser les portes du muséum le plus proche de chez eux, parce qu'en plus, en France, on a quand même la chance d'avoir une grande diversité de musées de sciences naturelles. Donc, c'était aussi une façon de promouvoir ces musées.
Alors, du coup, maintenant, j'ai une question, peut-être plus pour Pierre-Alban et Ahmed, mais vous pouvez répondre aussi. Est-ce que vous considérez comme vos jeux comme des serious games? Parce que j'ai lu, mais peut-être que je me suis trompée, hein, mais il me semble avoir lu que, notamment pour le projet Reveal, vous parliez plutôt de jeux scientifiques. Est-ce que vous faites une différence avec le serious game? Peut-être que non. Et si oui, pourquoi?
Déjà, je pense qu'il faudrait définir ce qu'on entend par serious game, vraiment. Je pense qu'il y a une espèce d'idéal de jeux vidéo, c'est génial, on apprend des trucs et à la fin on est super intelligent. Et pour être plusieurs dans l'équipe, avoir bossé sur du serious game, on s'aperçoit souvent que soit c'est serious, soit c'est game. Mais donc soit c'est vraiment un jeu super fun avec au milieu limite des QCM, soit c'est plus très très amusant et on est presque sur du e-learning. Donc je pense que c'est aussi pour ça que, comme on disait tout à l'heure, le fun au-dessus de tout, en fait. Donc c'est aussi pour ça qu'on a cette chance de pouvoir faire ça, de s'éloigner, en fait, vraiment du principe de « je veux t'apprendre quelque chose à tout prix, j'ai un contenu pédagogique à te faire passer et à la fin, je vais vérifier que tu as bien tout assimilé. Donc c'est pour ça, je pense, qu'on s'éloigne de ça et de par notre expérience qui fait qu'effectivement, on trouvait que c'était soit toujours trop sérieux, soit toujours trop game et qu'on essayait vraiment de plus pencher vers le côté game, quoi.
De par mon ancienne expérience, j'ai, Comme j'ai dit, j'ai travaillé sur un simulateur de conduite, simulateur qui était justement fait en collaboration avec des pédagogues, avec des formateurs de la conduite, qui était basé sur un modèle RMC avec des compétences, des sous-compétences. Et concrètement, en fait, à la fin de chaque niveau, on avait, on avait un tableau qui allait évaluer notre conduite et qui allait nous donner un certain score. Donc, on a quand même essayer de gamifier tout ça. Ce score allait nous permettre d'accéder au prochain niveau ou pas. Et donc, pour le coup, là, il y avait vraiment, vraiment une notion de, d'apprentissage qui était très forte, qui était même au cœur du jeu ou d'outils d'apprentissage à ce niveau-là, parce que on était évalué tout le temps. On était éliminé à la moindre erreur parce que, justement, c'est un sujet qui ne rigole pas. Donc, on est là pour apprendre à conduire. On n'est pas là pour jouer à GTA. Donc, on ne fait pas le foufou. Et c'est quelque chose qui à mon sens, totalement différent de l'approche qu'on a eue vis-à-vis de Prisme 7. Parce que, effectivement, je rejoins Pierre à ce niveau-là, on a voulu faire un jeu qui soit fun et amusant. Si le public s'amuse déjà dessus, c'est très bien. S'il apprend en plus que Mondrian avait telle approche, qu'il dessine de telle manière et qu'il a envie de découvrir l'artiste, là c'est encore mieux. S'il a encore plus envie de venir voir toutes les œuvres et découvrir son Centre Pompidou, là on a atteint le stade suivant. Mais on voulait vraiment que les gens s'amusent réellement en jouant au jeu et non pas avoir la sensation d'être devant un outil de formation avec beaucoup de textes. D'ailleurs, il n'y a pas cette notion d'évaluation à la fin des niveaux. On nous indique uniquement, on indique au joueur uniquement les gemmes qu'il a obtenues et on lui permet de savoir s'il a obtenu toutes les gemmes ou pas. Mais ce n'est pas une condition pour accéder au niveau suivant.
D'accord.
Donc voilà.
Oui, du coup, Léo et Augustin, quelle est votre approche, vous, en tant que médiateur culturel des serious games, notamment dans nos institutions ?
Question tout à fait circonscrite. Je pense que...
Tu peux l'étendre.
Je pense que, spécifiquement dans des musées autres que des musées de beaux-arts, d'art moderne ou contemporain, il existe une multitude de dispositifs numériques qui permettent d'apprendre tout en manipulant, on est en contact direct. Et je pense que là, l'idée était à l'inverse de montrer que la création contemporaine et moderne, le fait de créer en général et ce qui est exposé dans un musée, est accessible dans des dimensions complètement distinctes de quatre murs blancs, trois simèzes, un tableau, un cadre. Et là, à l'inverse, dans le jeu, s'expriment en fait des valeurs extrêmement importantes d'une œuvre d'art, d'une manière inédite ou en tout cas assez rare d'approcher. Il y a un design sonore particulier, une forme de contemplation, une forme de découverte ou en tout cas d'effet immédiat. Je pense notamment à un niveau sur qui appelle l'art cinétique, qui appelle l'art du mouvement et de la lumière, et le simple déplacement du curseur travaille la lumière, joue sur l'environnement et des particules dans le sens du jeu vidéo. Et je pense que c'est ça l'opportunité, et c'est finalement un peu la dynamique qu'on a voulu insuffler à ce projet. C'était pas forcément un jeu qui accumule un bagage de compétences extrêmement fortes, même s'il y a toutes les ressources pédagogiques potentiellement disponibles dans le jeu. C'est un premier contact. Il peut en effet créer un rapport émotionnel à des œuvres qu'on n'a pas dans des salles de musée.
À toi, Léo.
Ben, je partage ce que dit Augustin. Vraiment, le jeu vidéo, en tout cas, moi, je le vois comme une porte d'entrée aussi, plutôt à ensuite explorer des collections qu'on pourrait avoir dans un musée. Et donc, ce qui m'intéresse en termes d'outils de médiation, ce sont plutôt des jeux, non pas qui ont été pensés comme étant des serious games, mais plutôt détournés des jeux, uniquement développés pour être des jeux vidéo.
Tout à fait, ce que tu as fait avec Animal Crossing.
Ouais, c'est ça. Et en fait, détourner ces jeux pour s'en servir comme outil de médiation, comme porte d'entrée pour ensuite explorer différentes collections. Alors bien sûr que peut-être que dans le futur, comme on n'a pas forcément, nous par exemple, le budget pour développer un serious game, on n'y a pas pensé, mais sans doute que ce serait quelque chose d'intéressant à essayer de développer un serious game autour de collections de sciences naturelles, par exemple. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que, comme le jeu vidéo entre récemment dans les structures muséales, on va d'abord exploiter tout ce qui est déjà existant. Il y a une telle diversité de jeux vidéo qu'on peut exploiter comme outil de médiation que déjà on va s'atteler à essayer de, de trouver d'autres jeux qu'on pourrait utiliser et puis pourquoi pas ensuite développer des serious games sur ces thématiques.
Alors justement, ma question va prolonger un peu celle-ci, ma prochaine question, parce que je voulais vous demander ce que... Alors, on l'a déjà évoqué, enfin, vous l'avez déjà tous évoqué dans vos réponses, mais qu'est-ce que, selon vous, le jeu vidéo apporte en plus comme outil de médiation? Parce qu'on voit bien que c'est pas un outil de médiation comme les autres, c'est pas un outil de vulgarisation comme les autres, il apporte beaucoup de choses en plus. Mais du coup, on pourrait se dire que on peut l'utiliser pour tout et pour faire tout, et qu'on devrait tous se tourner vers le jeu vidéo pour conquérir des nouveaux publics, aller chercher les enfants, les parents, les grands-parents, les profs, etc. Mais c'est peut-être pas aussi simple que ça. Comment on l'utilise, comment on peut l'utiliser dans nos institutions? Qu'est-ce qu'il apporte en plus, en tout cas? Qu'est-ce qu'il apporte que les autres outils n'apportent pas pour la vulgarisation et la médiation?
Là, en tout cas, la réponse à laquelle je pense, elle est sous deux angles. Le premier, c'est, en effet, le jeu vidéo, d'abord, propose une approche complètement différente, et le but même de l'approche, je pense qu'on peut le dire sans trop de crainte, c'est jouer pour jouer. En effet, l'approche du jeu se suffit à lui-même, et d'ailleurs, il faut s'entourer de personnes dont c'est de la spécialité, c'est un métier. De la même manière que la médiation a certaines composantes, créer un jeu vidéo aussi. Et je pense que la dynamique la plus intéressante et la plus importante, c'est de proposer une expérience nouvelle et de montrer qu'un musée, comme n'importe quelle autre collection, quel que soit le contenu du dit musée et sa géographie, peut présenter sous un angle nouveau son travail. L'autre angle que je trouve assez intéressant et qu'on voit beaucoup plus, d'ailleurs de manière plus fine, c'est en effet la question de la gamification. Une visite de musée, en fait, et d'ailleurs depuis un certain nombre d'années, une visite de musée est généralement le cadre à toutes sortes de jeux, qu'ils soient d'ailleurs vidéo ou de plateau. Et on peut rendre l'expérience de visite, on peut la gamifier, en lui donnant un caractère alors mincement compétitif. As-tu vu un tel nombre d'œuvres ou un parcours particulier, ou retrouver au sein de la collection certains objets? Je pense que cette dynamique de jeu, et dans le sens le plus global du terme, elle est extrêmement importante pour montrer, encore une fois, et pour continuer nos missions de médiation culturelle et nos missions de conservation.
Léo ?
Là, sur le coup, non, ce serait plutôt vraiment le jeu vidéo comme un facteur d'immersion, en fait, pour le public. Là-dessus, je n'ai pas d'autres choses en plus à rajouter par rapport à Augustin. Mais
Augustin a tellement bien traité la question que vous êtes tous sans voix.
Si je peux me permettre d'ajouter. Alors nous, effectivement, c'est pas dans un cadre d'exposition. Mais donc c'est vrai qu'on a évidemment tous les aspects visuels et sonores, tout ce qui est l'immersion et tout ça. Il y a aussi le fait de se mettre à la place, d'incarner en fait, potentiellement scientifique. Mais on s'est pas mal posé la question en faisant notre jeu de la démarche scientifique, qu'est-ce que ça représentait en termes de mécanique de jeu, en fait? Est-ce qu'on ne peut pas imprimer cette démarche scientifique aussi aux joueurs, en fait, sans qu'ils s'en rendent compte forcément, mais qu'ils fassent un peu la même chose, c'est-à-dire collecter des données, mettre des hypothèses, vérifier ces hypothèses, etc. Donc, chose qu'on essaie de faire. Et puis, c'est aussi, en tout cas dans notre cas, un élément qui nous a permis de rapprocher un peu la science, la physique des particules avec le quotidien des joueurs, c'est-à-dire qu'on a une mécanique de prise de photo qui correspond en fait dans la physique des particules. Avant, on prenait des photos. Aujourd'hui, on a des gros ordinateurs qui enregistrent des fausses photos, quoi. Et on prenait beaucoup de photos, puis on voyait si on arrivait à avoir des particules, etc. Au joueur, on lui fait faire la même chose. Donc, on essaie de faire ce lien entre des mécaniques de jeu ou des mécaniques d'interaction et un sujet. Chose qui serait peut-être plus difficile sur un autre média.
globalement. Oui, donc il y a vraiment en fait dans le projet, enfin dans le jeu Reveal, cette idée d'incarner le scientifique pour pouvoir mieux comprendre et mieux faire passer le message.
Ouais, alors on l'incarne pas directement, mais c'est pas du tout un scientifique qu'on incarne.
D'accord.
c'est plus un explorateur, quelque chose comme ça. Mais malgré tout, la façon dont on va construire notre level design, donc dont on va construire nos énigmes, en fait, on va imprimer, en fait, essayer d'imprimer cette démarche scientifique, en fait, vraiment de, comme je disais tout à l'heure, les différentes étapes de collecte d'informations, émission d'hypothèses, vérification de mon hypothèse, etc. Quoi.
Et du coup, vous arrivez à développer ça sans être trop limité, parce que j'essaye de transposer ça à une expérience muséale ou de bibliothèque, dire bah, essayer de faire comprendre, par exemple, ce que ce serait de monter une exposition en se mettant dans la peau. Il y a certainement déjà des jeux qui le font, d'ailleurs. Mais certainement, par les mécaniques de jeu qu'on ne peut pas mettre de côté, il y aurait certaines choses qui seraient simplifiées ou éludées. Est-ce que vous êtes confronté à ces difficultés-là ?
Oui, concrètement, on part vraiment de quelque chose d'assez global et on sait que ça s'applique bien à notre cas et que ça peut s'appliquer à d'autres cas. Enfin, la démarche scientifique, c'est vraiment transverse. Hein, donc on pourrait très bien en parler pour d'autres sujets. Maintenant, c'est sûr qu'on fait des coupes, c'est sûr qu'on ne fait pas le travail d'un physicien dans le jeu, heureusement, parce qu'on perdrait tout le monde très rapidement, je pense. Mais oui, évidemment, on fait des coupes, mais on essaie quand même juste d'imprimer cette logique-là à notre jeu. Donc effectivement, dans le cadre d'une création d'expo ou de gestion d'un musée, la problématique serait complètement différente, mais on peut aussi certainement l'aborder par d'autres mécaniques de jeu, quoi.
Et puis comme tu dis, il faut que ça reste fun aussi.
C'est ça.
Ahmed, tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, d'une petite chose... Pour moi, c'est en fait c'est toutes les possibilités, la panoplie de possibilités qu'offre le jeu vidéo. Concrètement, en fait, un jeu vidéo, ça peut être utilisé comme outil de médiation parce que ça peut être du graphisme, ça peut être du son, ça peut être un jeu de jeu d'acteur, ça peut être des cinématiques, ça peut se jouer chez soi. Ça peut se jouer dans le musée avec différentes possibilités de géolocalisation, de gyroscopie, etc. Donc, en fait, toutes ces possibilités-là rendent, on va dire, à ce moment-là, l'outil jeu vidéo très puissant avec plein de possibilités. Et ça, c'est quelque chose que, bah, personnellement, j'encourage tous les organismes à commencer à utiliser, à initier. Voilà.
Ouais, je voulais juste apporter un contrepoint. C'est que, en fait, c'est une remarque qu'on s'est faite aussi avec cette visite virtuelle sur Animal Crossing. C'est que le jeu vidéo, c'est dépendant de technologies et que ces technologies, elles ne sont pas accessibles à tous, en fait. Et notamment pour cette visite d'Animal Crossing, certes, on a touché un public plus large, mais il fallait quand même des certains prérequis. Il fallait la console, le jeu, une connexion Internet.
La connexion.
Donc c'est un coût, en fait, cette possibilité d'accéder à cette médiation. Donc, de fait, on ne pouvait pas toucher tout le monde. Et donc, ces dispositifs numériques qu'on développe, l'idée, c'est aussi de trouver un moyen de les rendre le plus accessible possible. Donc, soit dans des médiathèques, par exemple, ou différentes, ou à l'école, etc. Mais si c'est uniquement accessible pour l'individuel à travers un smartphone ou autre, bah forcément, il y a une partie du public qu'on ne pourra pas toucher parce qu'il y a une fracture technologique, numérique... que certaines personnes ont.
Et je pense que un des enjeux de concevoir un jeu vidéo et notamment de le distribuer largement sur un téléphone ou sur ordinateur, c'est de proposer une expérience de l'ailleurs. C'est-à-dire que mettre en concurrence un jeu immersif dans la création des œuvres au sein d'un espace d'exposition va potentiellement être fâcheux pour la visite des espaces d'exposition et pour le jeu lui-même. Alors que donc l'avantage, c'est de multiplier, d'être finalement un peu dans tous les domaines possibles, imaginables. Personnellement, j'aimerais beaucoup qu'il y ait une borne d'arcade Prisme 7 quelque part dans le forum du Centre Pompidou, mais là encore, dans le forum du Centre Pompidou, qui fasse un palier, un petit ou grand palier pour à visiter la collection elle-même, pour que les deux n'entrent pas en concurrence, mais plutôt s'enrichissent mutuellement.
Oui, ça c'est important, effectivement, la non-mise en concurrence des deux. Mais sur tout ce que vous avez expliqué, j'ai l'impression que quand même ça reste assez complémentaire, parce que on touche d'autres publics, on va chercher d'autres publics, et on n'en attend pas forcément les mêmes choses que tel ou tel type de médiation. On sait pourquoi on l'a fait et pour quel but éventuellement pédagogique. Donc effectivement, peut-être que cette question de la concurrence, elle ne se pose pas en fait. Toi, par rapport aux visites et aux visites qui ont repris en présentiel.
Clairement, non, on ne rentre pas en concurrence, en plus parce que virtuellement, on ne touchait pas le même public géographiquement. Donc de fait, il n'y a pas de concurrence. Et nous, de toute façon, on est toujours à la recherche de nouvelles formes de médiation. Donc en soi, on est toujours preneur de nouveaux projets. Donc non, pas du tout de mise en concurrence sur ce sujet.
De votre côté non plus, j'imagine que c'est...
Non, je pense que c'est même... D'ailleurs, je le disais de manière pas du tout antagoniste ou négative, hein, mais plutôt sur c'est un des prérequis, c'est de proposer une expérience et en fait, envisager l'expérience en dehors.
Alors maintenant, j'ai une question plus spécifique pour les game designers qui sont à cette table. En quoi c'est différent de travailler sur un serious game ou un jeu scientifique, en tout cas les jeux dont on parle, dans l'expérience d'un game designer? Quel est le rôle du game designer dans ces projets-là? Et en quoi les enjeux diffèrent par rapport à un jeu classique?
Déjà, l'approche n'est pas la même. Ça dépend principalement du sujet. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on parle de la sécurité routière et surtout dans l'organisme de formation, donc l'auto-école, c'est un sujet avec lequel on rigole absolument pas. D'où l'importance en fait de maîtriser en fait le sujet quand on est en phase de conception ou de réalisation. C'est-à-dire que un game designer, il a beau être sensible à tout ce qui concerne la sécurité routière, et ne le sera peut-être pas autant qu'un formateur dans une autre école. C'est pour ça qu'il y a cette collaboration entre le game designer et le formateur ou un pédago de l'auto-école ou de ce genre
de... Oui, ça demande à chacun de s'ouvrir au monde de l'autre, en fait, pour arriver à se comprendre et arriver au même but tout en n'ayant pas forcément les mêmes enjeux de départ.
Effectivement. Et en fait, l'enjeu à ce niveau-là, ça va être de convertir concrètement toute la partie apprentissage en quelque chose de ludique. Comment convertir le simple fait de devoir s'arrêter à un stop, par exemple, en une brique de gameplay. Et donc, cette communication doit se faire justement entre le pédago et le game designer afin de trouver le moyen de convertir ça de manière déjà convenable, concrète. Savoir quel est le but recherché en fait par la mécanique, combien de fois il doit revenir dans le niveau ou tout au long du jeu ou de l'outil de formation. Et c'est là où on va retrouver cette différence par rapport à un jeu classique où le game designer finalement sera toute seule à réfléchir en fait à de nouvelles mécaniques, à comment titiller la curiosité du joueur, à comment le challenger pour créer ce fun. Chose à laquelle on n'est pas autorisé, mais contrainte qui nous est imposée quand on parle d'un serious game. Notamment, tout ce qui concerne le réalisme. Le réalisme, je veux dire qu'on est dans un univers concret, sans entrer dans les délires qu'on peut retrouver dans les jeux vidéo avec des personnages, avec des super-pouvoirs, etc. Donc ça contraint. Après, pourquoi j'ai tenu 5 ans dans cette boîte? C'est parce que justement, avec ces contraintes-là, qu'on peut être créatif. C'est comment jouer avec ces éléments-là pour créer quelque chose qui soit quand même fun, d'accord ? Pour que l'élève, qui en même temps joueur, ne se lasse pas au bout de quelques minutes de jeu. Et c'est là où, justement, ça peut être intéressant pour les game designers. C'est ce que je dis d'ailleurs aux étudiants à l'école, c'est que quand on leur parle de serious game, tout de suite, pour pas mal, en tout cas pas pour tous, on se dit « Ah ouais, mais c'est un truc chiant ». Ça va être
chiant parce que ennuyant ou oui. Chiant à cause de la contrainte justement.
Justement toutes les contraintes qui s'imposent aux game designers et justement ils se voient eux-mêmes un public qui est pas du tout concerné par le serious game.
en tout cas pour une partie. Et c'est pour ça que on leur éduque cette notion de c'est des contraintes, effectivement, et quand on est créatif, on doit jouer avec ces contraintes-là, trouver le moyen de rendre ça marrant, fun, à jouer, tout en gardant, bien sûr, l'aspect pédagogique présent tout au long de l'expérience. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement intéressant pour, que, pour les game designers qui veulent faire du serious game.
Ouais, pour nous, c'est... Alors, le travail, effectivement, comme disait Ahmed, c'est très... on part d'une matière, en fait, initiale, donc d'un certain nombre de contraintes et d'un message que la personne, donc que ce soit le scientifique ou un client dans un service game, veut faire passer, absolument. Et parfois, des choses dont il ne veut pas parler aussi. Ça m'est arrivé dans ma carrière d'avoir... de construire un petit builder, en fait. Donc, on fait sa ville, on a des citoyens qui deviennent employés, tout ça, et ils nous ont dit, non, on ne veut pas parler d'emploi. Bon, super, ça enlève une mécanique, et puis ça met un peu le jeu par terre, mais c'est pas grave. Donc, on essaie d'avancer comme ça. Donc, on part vraiment de ce principe-là. Dans notre cas précis à nous, aujourd'hui, on a plusieurs chances. D'une part, on a donc un scientifique qui fait partie de l'équipe, donc qui est avec nous. D'autre part, on est intégré dans un labo de physique des particules, donc on baigne dedans, en fait. On va dans les bureaux à côté, ils sont en train d'observer des événements de physique des particules. Enfin, ça a l'air génial comme ça, j'ouvre une porte et je vois, non, c'est pas comme ça, mais bref. Et puis, on a pu accéder à cet univers-là, on a pu aller visiter le CERN, donc aller visiter le LHC, l'accélérateur de particules, et avoir vraiment cette visite et plein d'informations techniques là-dessus. Après, une fois qu'on l'a transposé en jeu, c'est un peu différent. Donc, c'est de longues discussions avec l'équipe et avec les chercheurs pour essayer de trouver le bon équilibre entre la mécanique qui va être bien fun, mais qui, en même temps, ne va pas planter un couteau dans le dos de la science. Il faut vraiment qu'on essaie de rester le plus possible proche de la science. Donc, on fait un peu des concessions des deux côtés et on arrive à trouver, effectivement, le bon équilibre entre bien parler de la science, ne pas la trahir, et en même temps avoir un jeu fun. Et c'est des discussions qu'on a vraiment tout au long du projet sur des points au départ assez essentiels. Donc, je vous parlais tout à l'heure des mécaniques de plateforme, ce qu'on a fait du prototypage papier qu'on a testé. On a vu que c'était fun, mais par contre, au niveau science, il manquait quelque chose, donc il fallait un peu enrichir. Donc on a enrichi, on a retesté, c'était fun, ça marchait bien, au niveau de la science, ça fonctionnait, donc on est parti sur ce principe-là. Mais sur tout un tas de petits détails, après, on va pouvoir vouloir des fois revenir en arrière ou modifier des éléments parce que ça ne colle plus aussi bien à la science, où il y a des éléments qu'on veut représenter et qu'on n'avait pas initialement. Donc voilà, et il y a un truc assez essentiel et que j'arrêtais pas de dire aux chercheurs, au début on n'était pas trop d'accord là-dessus, c'était moi mon boulot c'est de faire des systèmes en fait, et des boucles et des choses qui vont se répéter, et ta science en fait elle n'est pas systémique, il y a toujours des exceptions. Mais mine de rien en fait, en discutant et en avançant comme ça, on arrive un peu à lisser en fait ces exceptions-là et à quand même réussir à faire un système, quelque chose de répétable. Et de facilement identifiable. Après, ça dépend de tous les sujets. Effectivement, je pense que sur la conduite, tu vas avoir un sujet totalement différent. Moi, j'ai bossé sur des jeux sur le prêt immobilier. C'était très, très différent comme problématique aussi. Et voilà, il y a un contenu qui est riche à apprendre. Et notre client veut absolument que les employés sachent bien faire leur prêt immobilier.
Mais tu aimes le challenge, parce que la physique des particules et le prêt immobilier, quand même, c'est, pour les serious games, c'est ambitieux.
Ouais, c'est ça. Alors, par contre, j'ai une super capacité à oublier. Donc, dès que j'ai fini le prêt immobilier, j'ai tout oublié.
Ah, d'accord. Donc, la physique des particules, une fois que ce sera fini.
Non. En fait, justement, c'est que pour moi aussi, c'est une occasion d'apprendre des choses sur des domaines que je connais pas, et la physique des particules, comme je disais tout à l'heure, pour moi c'était de la science-fiction quoi, initialement. Mais je me suis dit, j'ai envie de mourir moins bête, donc j'aimerais bien aussi en apprendre là-dessus, donc c'était une double bonne occasion de
Et tu arrives à appréhender cette... Je sais pas si tu étais familier ou...
Absolument pas. Alors ça, c'est ça qui est pas mal, c'est que on vise un public de joueurs qui n'y connaît rien à la science.
Oui, justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, donc
science,
et toi-même...
Et donc ça faisait déjà un bon premier rideau de dire « Ok, là, je comprends vraiment rien, vous m'avez complètement perdu, j'ai rien appris. » Donc, c'est déjà un premier élément qui est intéressant. Puis, on est pas mal dans l'équipe, en fait, à pas forcément avoir d'appétence pour les sciences et pour la physique des particules. Donc, aujourd'hui, on en sait un peu plus parce qu'on a eu des après-midi de cours sur le sujet. Mais dans les détails, il y a évidemment pas mal d'éléments où qu'on va oublier ou qu'on va perdre, mais je pense qu'on a quand même commencer à acquérir une certaine connaissance. Et d'ailleurs, c'est peut-être une malédiction maintenant de connaître un peu trop la physique des particules pour s'adresser à un public qui n'y connaît rien, à qui on va vouloir apprendre des choses. Mais malgré tout, on a commencé à acquérir quelques très légères compétences suffisantes pour notre besoin.
Merci à tous les deux. On approche de la fin. On n'y est pas encore, mais on approche un petit peu. Donc, je voulais vous demander, est-ce que vous avez d'autres projets ? Non, c'est pas la question piège, Léo. Est-ce que vous avez, dans l'immédiat, dans un avenir proche, oui, je vois que tu es soulagée, d'autres projets de médiation avec le jeu vidéo ? Toi, par exemple, Léo, je sais que les visites en présentiel ont repris à Angers. Est-ce que tu continues les visites virtuelles via Animal Crossing ?
Alors pour l'instant non, parce qu'on a été pris par une ouverture d'exposition, la réouverture des musées en mai, et donc là on est vraiment attelé à animer cette exposition, donc on n'a pas forcément le temps, mais par contre c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de développer. Ça c'est une première expérience, elle s'est faite aussi depuis chez moi avec mon matériel perso, et donc l'idée c'est de faire entrer le jeu vidéo dans l'institution, que vraiment on puisse s'équiper et qu'on puisse vraiment créer des projets in situ en fait. Donc,
Et tu as convaincu
En fait, de toute façon, déjà, mes équipes, les équipes m'ont fait confiance quand j'aurais proposé cela, dès le début. Et donc, quand on a vu en plus que ça fonctionnait bien, j'ai la chance d'être avec des collègues qui sont tout à fait partants pour développer des projets autour du jeu. Donc, moi, j'aimerais beaucoup aussi l'utiliser avec le public scolaire. Donc, il y a des exemples. Hein, on peut parler, par exemple, d'un jeu comme Sport, qui commence à dater un peu, mais qui est un jeu qui avait été développé par le même équipe que les Sims. Et en fait, c'est un jeu où on développait une petite créature et on choisissait un petit peu comment on souhaitait la faire évoluer. Donc on jouait un petit peu à Mère Nature, à développer cette créature. Et donc on pourrait très bien imaginer une séance autour du jeu et ensuite un parallèle avec les collections et on va vraiment dans le musée. Donc je pense que non, c'est le début. J'espère que c'est que le début et qu'on va pouvoir proposer d'autres projets autour du jeu dans le futur.
Merci Léo. De votre côté ?
C'est assez similaire. D'abord, on sait que Prism 7 est sorti l'année dernière, oui. Mais c'est un dispositif scolaire qu'on fait voyager. Il y a vraiment un mobile qui va avec, qui permet de un véritable stand de pratique. Et donc, on a très envie de le faire voyager en dehors de l'Île-de-France, d'ailleurs, médiathèque ou équipement scolaire, pour donner à voir les collections, mais aussi participer à... Encore une fois, tout ce qu'on parlait plus tôt, rendre plus familier des objets qui sont familiers d'un volume assez, d'une part assez faible de la population française. Et l'autre point, donc Prism 7 potentiellement a vocation à être présenté à différents endroits, et le jeu vidéo en lui-même, et je pense dans toutes ses composantes, est une matière qu'on va continuer à pratiquer au sein de la médiation culturelle, soit dans la création d'autres jeux, soit à l'inverse en imbriquant des parts de gameplay dans la visite d'un musée.
Ahmed, Pierre Albon. Vous n'êtes pas dans des temporalités similaires sur les trois types de projets, parce que Prism 7 est déjà sorti, Reveal 7 en cours, et les visites via Animal Crossing, c'était aussi un peu conjoncturel. Donc, mais du coup, vos réponses sont toutes intéressantes de ce point de vue aussi.
Pour ma part, ayant travaillé sur Prism 7, j'adore de voir son évolution. C'est pas peut-être un Prism 7 Prism 2.
Oui, parce que vous n'avez pas fait toutes les collections, donc il reste des tonnes de choses à faire.
Il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, en tant que développeur indépendant, en fait, je continue de travailler sur des petits jeux, en fait. Très intimiste qui traite d'autres sujets, et en fait j'utilise le média justement pour véhiculer certaines pensées, certains messages que je veux véhiculer. En fait, concrètement, c'est pour moi la même chose que créer un morceau musical ou un court métrage. Donc j'ai déjà par le passé réalisé plusieurs petits jeux. Et je continue de le réaliser, et c'est quelque chose qui justement passionne. Et si j'ai travaillé justement sur tout ce qui est Serious Game, Prism 7, etc., parce que c'est un domaine qui m'intéresse et qui me passionne, d'utiliser le jeu vidéo comme outil de médiation et comme canal, en fait, concrètement, canal de communication avec les joueurs. Et donc, je m'exprime via ce média-là.
Et avec tes étudiants, est-ce que tu leur fais faire des devoirs ou des projets spécifiquement de Serious Game
spécifiquement...
Tu parlais tout à l'heure justement d'essayer de les sensibiliser.
Alors, spécifiquement, non. Spécifiquement, non, mais on a deux choses. On a par exemple l'école qui, elle, propose des game jams et des semaines de création de jeux qu'on appelle la Game Week et qui commence justement à aborder des thématiques un peu plus, on va dire, sérieuses, comme par exemple l'année dernière, c'était Make a Better World, créer un monde meilleur. Et cette année, c'était Tous différents. Donc, concernant le sujet de l'inclusion, etc. Et donc, les étudiants sont amenés justement à créer des jeux qui vont dans ce sens, en fait, qui traitent ces thématiques, sans pour autant être des jeux sérieux. Donc, le but principal, c'est le fun, mais il y a un but derrière qui est de véhiculer un message.
Et c'est aussi comme outil de sensibilisation, pas forcément de pédagogie dure, voilà, mais de sensibilisation par le jeu. Donc, et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure de comment définir le serious game. Est-ce qu'on est toujours dans le serious game ou est-ce qu'on est juste dans le game? Mais ce n'est pas parce que c'est juste un jeu que ça ne peut pas passer un message, comme vous le disiez tout à l'heure, ou sensibiliser, etc. Donc,
ouais, exactement, exactement. Bah, moi, personnellement, j'utilise la comment dire, le nom news game. Et en fait, c'est je peux... traiter des sujets de l'actualité via le jeu vidéo. Et comment le faire ? On l'a déjà eu par le passé. Il y a par exemple eu le 12 septembre, qui est un jeu qui sensibilise justement par rapport au sujet du terrorisme, au retour américain par rapport au terrorisme. Et personnellement, je suis vraiment très, très, très passionné par ce genre de jeu. Et dans les jeux que j'ai faits, ce sont principalement des news games. Donc, je traite des sujets de l'actualité. Et les étudiants également traitent des sujets de l'actualité. L'un des thèmes qui a été proposé l'année dernière pour leur jeu One Button, donc c'est des jeux qui sont joués avec un seul input, une seule interaction. Je leur ai imposé le thème 2020. Et donc, ils devaient chacune, de leur côté, proposer une idée de jeu basée sur les actualités de 2020. Et on a eu beaucoup de jeux qui traitaient le sujet du coronavirus, les incendies en Australie. Mais il y a également des petits malins, et ça, j'en suis ravi de voir, qui ont traité le thème différemment, qui ont fait un étudiant qui a fait un jeu qui s'appelle 20 sur 20. En fait, voilà. Donc, c'est un jeu qui est basé sur la mémoire. Mais c'est intéressant, en fait, de toujours proposer des thématiques qui vont pousser, justement, les étudiants non seulement à créer le jeu comme juste jeu et essayer de un petit peu s'inspirer de ce qui existe actuellement, notamment des gros jeux, pour sortir des réplicas de ces jeux-là, mais de se creuser la tête pour chercher des sujets ou plutôt des thématiques sensibles, et essayer d'apporter en fait leur point de vue via le jeu vidéo, tout simplement.
Ouais, de notre côté, déjà, effectivement, on va finir notre jeu.
c'est prévu pour quand ? C'est la question qui fâche, pardon, peut-être.
C'est prévu pour courant 2022.
Ça se rapproche.
C'est ça. Oui, mais c'est long, 2022. Enfin, bon, ouais. Donc déjà, finir notre jeu, ça fait un moment qu'on est dessus, on a investi pas mal de temps, on sait que c'est assez ambitieux et tout, donc après on a envie de faire des projets aussi un petit peu plus courts, quoi, continuer à avancer sur un mode, sur des projets moins ambitieux, un peu plus courts, avant peut-être de se replonger sur quelque chose. On a quelques idées, mais voilà, je pense que ça viendra plus sur un procédé presque de game jam au final, quoi. On va trouver des sujets qui nous intéressent, qu'on a envie d'aborder sur des expériences courtes et puis bosser là-dessus. Après, on n'est jamais bien loin des projets de nos étudiants aussi, en vrai, qui sont toujours liés aux jeux vidéo. Par exemple, on a des étudiants qui font un projet sur les troubles de l'attention, admettons. Et c'est des projets qu'on suit aussi au cours de leur développement et au cours de l'année. Donc c'est plus des rendus scolaires, mais malgré tout, des fois, ça peut déboucher aussi vers des rendus plus... soit institutionnels, soit commerciaux, si ça marche. Donc on n'est jamais vraiment bien loin de ces choses-là, et ce qui fait que ça nous enrichit aussi. Là, cette année, on a 9 projets étudiants en cours qu'on suit fréquemment, donc ça nous enrichit aussi toujours de nouveaux projets, de nouvelles problématiques entre le jeu et la science, quoi.
Merci. Merci beaucoup à tous les quatre pour cette discussion vraiment intéressante. J'avais tout le temps envie de vous interrompre pour vous raconter des bêtises ou vous poser plein de questions. Mais du coup, j'imagine que notre auditoire aura aussi plein de questions à vous poser. Je sais qu'il y en a déjà qui arrivent via Facebook. Est-ce que d'abord, dans la salle, il y a des questions pour nos intervenants ? N'hésitez pas à lever bien la main ou même à vous lever pour qu'on vous voit bien. Une question là-bas.
Alors j'ai une question peut-être pas très amusante, mais elle s'adresse à Léo. Et quel était le cadre légal pour l'utilisation de Animal Crossing dans une médiation ?
Aucune idée. on a demandé l'autorisation à personne en fait. Voilà. Vu qu'en fait il y avait pas, ce sont des animations qui sont gratuites, donc il n'y a pas un échange. Voilà. Le fait que l'animation soit gratuite. On ne s'est pas posé la question, mais c'est vrai que si on devait rendre l'animation payante, je pense que la question pourrait se poser. Mais non, c'est vrai qu'on m'a posé souvent la question, d'autres musées me demandaient, vous avez demandé à Nintendo comment ça s'est passé et tout, et en fait, pas du tout. J'aurais bien aimé demander à Nintendo qu'ils m'envoient une console aussi, parce qu'ils ont utilisé notre animation comme outil de com aussi dans des communiqués de presse, mais on a...
Ah ouais ?
Ouais, mais on n'a jamais eu de cadeau.
Donc ils l'ont vu.
Ils ont dû le voir parce qu'il y a eu des communiqués de presse qui sont où voilà ils vantaient le succès d'Animal Crossing. Ils disaient regardez ce qui a été fait autour de ce jeu. Ils parlaient notamment de nos visites. Mais voilà, on l'a suivi un communiqué de presse. Mais voilà, j'aurais bien aimé avoir des cadeaux comme les influenceurs, mais non.
On va prendre une question sur Facebook. Comment associer nos partenaires centre social école dans nos propositions de jeux vidéo au moment de la création, au moment du jeu ? Peut-être plus largement, est-ce que vous avez travaillé avec des partenaires, l'un de vous trois ?
Je me dis que c'est peut-être une question d'un collègue ou d'une collègue bibliothécaire qui avait envie de petits conseils techniques sur comment associer les partenaires dans ce type de médiation. Donc je ne sais pas si vous pourrez répondre sur ça.
Bah, c'est vrai qu'il faut aussi avoir le matériel déjà en fait.
Oui, ça c'est sûr.
Avoir accès en fait aux consoles, avoir accès voilà à la technologie pour pouvoir proposer ensuite des médiations autour du jeu. Donc c'est vrai que pour l'instant certaines médiathèques commencent à être équipées. Les musées c'est pas forcément le cas, mais il faut que les structures s'équipent. Et qu'ensuite, les projets vont pouvoir se développer. Mais c'est vrai que peut-être que certaines structures ont encore des freins à s'équiper de matériel vidéoludique, parce qu'il y a peut-être encore une image du jeu vidéo comme étant uniquement un outil de divertissement et pas forcément un objet culturel. Mais bon, c'est en train de changer.
On est là pour ça.
Dans la conception ?
Oui,
ouais, bah, complètement.
Peut-être qu'effectivement, Augustin, vous aurez peut-être des éléments à apporter. Oui, la question portait vraiment sur, par exemple, pour Prisme 7, est-ce que vous avez associé des classes au moment de la conception du jeu ou pas du tout ? Et du coup, au moment si ce n'est pas au moment de la conception, par exemple, comment vous allez chercher les classes pour leur proposer Prisme 7 ?
Ben, sur la conception du jeu, je pense que tu pourras en parler mieux que moi. Il y a quand même nos enseignants et enseignantes relais qui sont quand même en lien direct avec la classe. Après, dans la conception elle-même, je pense que tu pourras largement mieux que moi en parler.
Ben, en fait, concrètement, on a réalisé des sessions de playtest avec notre public cible, avec des classes, justement des élèves de classe qui venaient tester le jeu. On avait donc des intervenants du centre Pompidou qui réalisaient un petit peu en fait le suivi de ces sessions de playtest, qui faisaient des retours sur l'accessibilité, la compréhension, la visibilité de certains éléments, et même des fois des bugs. c'est intéressant. Et sur ces mêmes retours-là, en fait, on se basait justement pour revoir et pour améliorer l'expérience de jeu. Et ces sessions de playtest, on en a fait pas mal en fait tout au long de la production du jeu.
Alors,
et sur l'enjeu en effet de manipulation, on a vraiment une station itinérante qui peut s'installer dans une médiathèque ou un espace suffisamment grand. Elle fait environ 5 mètres de long, donc elle ne s'adapte pas tout à fait à la classe, mais qui permet de prendre en main le jeu et de répondre à ces questions d'accessibilité, d'avoir un support suffisamment grand, d'assez bonne qualité, avec une batterie, une autonomie qui supportera le jeu.
On avait, je crois, aussi beaucoup de questions en ligne sur comment on accède à vos jeux. Alors, du coup, pareil, la question va se poser différemment selon vous, mais les gens se demandent s'il faut, si c'est forcément en ligne, est-ce qu'il faut s'inscrire, comment on y accède, comment on y joue.
Alors, Prisme 7 est disponible sur le site du Centre Pompidou, en téléchargement, et sur les plateformes de téléchargement, iOS ou Android, et sur PC.
Pour Reveal, est-ce que vous savez comment ça sera accessible?
Alors, Reveal, on vise une sortie PC et console, donc ça, c'est après à définir dans les détails. Voilà, et après, comme je disais au début, on a cette petite application qui sera disponible sur cimer.io, mais je crois qu'elle n'a pas encore été uploadée à cette heure-ci. Voilà.
Et Léo, toi, je crois que je t'ai déjà posé la question plein de fois, mais est-ce que tu comptes refaire des visites virtuelles? Et si oui, comment les gens pourront s'inscrire?
Alors, oui, pourquoi pas. C'est pas prévu actuellement, mais c'est toujours possible. Ce sera après, on communiquera sur les réseaux sociaux, et en général, après, c'est des inscriptions sur une plateforme d'événements, en fait. Et les gens peuvent s'inscrire. Et donc, c'est gratuit également. Et moi, du coup, j'avais une petite question en même temps pour vous.
Eh bien, vas-y.
Ça me permettait de...
C'était... Moi, j'ai une autre question pour toi, après. Donc, profites-en.
C'était, en fait, quel modèle économique pour ce type de jeu, en fait, que ce soit Prisme 7 ou pour Reveal, ou même pour les autres projets, est-ce que ces jeux, il faut les rendre forcément payants, est-ce que c'est... ou forcément gratuits, ou est-ce qu'il y a un modèle économique à concevoir, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'assez homogène qui est déjà en place sur tout ce qui est serious game?
Dans notre cas, c'est vraiment un dispositif destiné aux scolaires, donc il n'y a pas de modèle économique autre que nos engagements et nos missions vis-à-vis des publics scolaires et dans le grand périmètre de l'EAC. Maintenant, je pense que c'est tout à fait, c'est vraiment la mission principale du jeu. Enfin, sa mission principale, c'est en effet ces critères-là.
Nous, si je ne me trompe pas, on va aller sur un modèle payant. Mais les modalités sont à définir. Après, voilà, si on est sur des stores comme Steam ou quoi, c'est un achat et puis il n'y a pas de microtransactions dedans et tout ça. C'est comme un jeu premium, n'importe lequel. Voilà.
Du coup, question pour toi, Léo, qui nous vient encore de Facebook. Comment réussir à toucher le public plus large et distant? Quelle communication pour que les utilisateurs d'Animal Crossing participent à cette visite guidée virtuelle?
Alors, nous, tout d'abord, on a eu la chance de profiter du buzz médiatique qui a entouré Animal Crossing. On a commencé par communiquer sur les réseaux sociaux, mais les musées d'Angers n'ont pas une communauté énorme. Mais en fait, on a eu la chance d'avoir un journaliste du Monde qui a assisté à une des premières visites. Et donc ensuite, il y a eu un effet boule de neige. Et c'est pour ça qu'on a pu faire parler de nos médiations. Ça a été plus compliqué ensuite pour trouver du public lorsqu'on a voulu relancer ces visites. Et la solution a
été... Après le confinement, tu veux dire?
Par exemple, aux vacances de Noël dernier, on a relancé des visites et on a eu beaucoup moins de monde. Parce que forcément, il n'y avait plus ce buzz médiatique autour de ce jeu. Et pour les visites du printemps dernier, je suis allé chercher le public, en fait, dans la communauté Animal Crossing. Parce que c'est un jeu dans lequel il y a une très grosse communauté. Il y a des groupes Facebook qui sont à plusieurs dizaines de milliers d'adhérents. Il y a des forums dédiés. Et donc, en fait,
tu parles à une fan d'Animal Crossing. Tu en as une à côté de toi, donc effectivement.
Donc typiquement, le Nurshi d'Animal Crossing, eh ben, on a posté nos annonces sur ces groupes. Et en fait, là, on a touché beaucoup de public. Donc il faut trouver le public. Et ce public, on l'a trouvé sur les forums, sur les groupes Facebook. Et c'est comme ça qu'on a pu remplir nos visites.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Parce que je crois que sur Facebook...
C'est le moment de parler ou de se taire à jamais.
Réfléchissons encore 2 minutes. Je repose une dernière question de fan. Du coup, je l'avais gardée pour la fin, si jamais j'avais le temps. À Léo, désolé. Comment on fait pour faire visiter le musée d'Animal Crossing, qui est effectivement magnifique, quand on est au tout début du jeu et qu'on n'a pas encore pêché tous les poissons, attrapé tous les insectes et les créatures marines, puisqu'en plus, c'est saisonnier, donc du coup...
Eh ben, c'était pas très grave de ne pas avoir le musée complet, en fait, parce que finalement, quand on visite un muséum de sciences naturelles ailleurs en France, il n'est pas complet non plus, il n'a pas tous les insectes, tous les poissons, etc. Et donc, finalement, assez rapidement, on peut avoir une dizaine de poissons, d'insectes, de fossiles, et ça suffit à créer un parcours. Donc au final, certains visiteurs étaient un peu déçus, ils s'attendaient à voir un musée complet. Mais non, ce n'était pas le cas, et puis ce n'était pas très grave. Et puis moi, en plus, ça permettait de mettre à jour mon parcours au fur et à mesure de mes parties, et au fur et à mesure voilà, que je complétais le musée. Mais ça pose la question, on pourrait imaginer que Nintendo développe des kits à disposition des médiateurs avec des musées déjà complets et qu'on pourrait ensuite exploiter. Donc je lance un appel à Nintendo.
Mais tu perdrais toi le fun, du coup tu aurais déjà...
Et oui, et beaucoup de personnes voulaient me faire des dons, voulaient me donner, c'était très sympathique, une sorte de pourboire, ils voulaient me donner des fossiles et en fait je refusais gentiment parce que bah, ça faisait partie de mon plaisir de joueur d'aller les chercher également, ces fossiles. Donc je voulais prendre le temps. Et puis je voulais pas tricher pour aller chercher les poissons de l'hémisphère sud l'hiver, bref. Donc c'était pas gênant pour proposer une visite.
Merci Léo. Je crois que on n'a plus de questions Facebook. Est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir dans la salle à d'autres questions ?
Bonjour. Oui, c'est une question qui reprend la question précédente qui avait été posée sur le modèle économique et donc qui s'adresse plutôt à Augustin et peut-être un peu à Léo. Il y a quand même besoin de financement pour ces jeux, même si c'est des jeux qui sont basés sur le modèle de la gratuité. Donc est-ce que ça implique d'aller chercher des nouvelles sources de financement ou est-ce que ça implique aussi de faire des arbitrages en interne avec d'autres formes de médiation ?
Bon, dans tous les cas, oui, les deux. Dans un premier temps, alors c'est vrai que dans le cadre de Prisme 7, c'est dans le cadre d'un programme investissement d'avenir de cadre du ministère de l'Enseignement et de la Jeunesse. Mais tous nos projets, en fait, à destination du scolaire ou à destination de publics qu'on appelle éloignés, mais qui ont moins l'habitude de visiter le musée, ont cette même dynamique, savoir que au-delà des financements propres et des capacités que des grandes institutions ou moins grandes institutions peuvent donner à leurs équipes pour travailler dans ces missions, se pose toujours la question de développer de nouvelles associations ou de mécénats pour faire en sorte d'améliorer la qualité du produit fini. Donc, je pense que dans le cadre de Prisme 7, il y avait une véritable ambition qui a été portée et qui a été permise par les financements et par le Centre Pompidou. Dans d'autres projets, il y a des arbitrages qui sont réalisés, en effet, dans le respect de toutes les règles budgétaires qu'on connaît, différents établissements.
Ahmed, tu avais une question pour Léo, tu m'as dit. Ah. Et je pense que ça sera la dernière.
Mais
ensuite, on va
pas,
devoir...
c'est pas une question piège, c'est juste... concrètement, ça t'a pris combien de temps pour réaliser en fait, ton projet sur le jeu, je veux dire ?
En fait, le jeu sort, je crois que c'est le 16 mars, et donc je l'ai acheté, je crois, au premier jour. Et donc je joue au jeu, on en parle avec les collègues, on se dit « Ah, ce serait rigolo de faire un tweet, un clin d'œil », et puis après on se dit « Ah, on peut aller plus loin que ça ». Et donc on a créé un parcours en une semaine. L'idée c'était de jouer un petit peu pour forcément avoir de nouvelles espèces, et puis ensuite imaginer un parcours qui soit grand public, qui puisse à la fois donner des anecdotes sur certaines espèces et en même temps donner des principes un peu plus théoriques sur qu'est-ce qu'un insecte, qu'est-ce que la paléontologie, etc. La rendre également interactive, cette visite, poser des questions aussi aux visiteurs, leur faire des petits jeux de pistes, chercher certaines espèces. Et la première visite, on l'a faite le 8 avril, donc c'était une semaine de travail pour concevoir ce parcours. Et puis ensuite, il évoluait au fur et à mesure des retours aussi des visiteurs, comme on le fait finalement dans des visites concrètes. Donc à peu près.
Tu totalises combien d'heures de jeu sur...
Pas tant que ça. En final, je dois être à une centaine, 150 heures, mais c'est pas si énorme c'est quand même quelque chose que je voulais souligner, c'est que finalement transformer un jeu en outil de travail, ça peut avoir aussi un effet pervers, c'est que ça peut un peu parfois écœurer du jeu. Et c'est vrai que Animal Crossing, finalement, maintenant, je l'utilise que comme outil de travail. Et j'ai un peu perdu parfois le goût d'y jouer parce que je l'associais au travail. Donc c'est un peu un risque.
Je me tairai pudiquement pour ma part sur mon nombre d'heures de jeu d'Animal Crossing et je vais me contenter de vous remercier chaleureusement tous les quatre d'avoir été avec moi ce matin pour ces échanges très enrichissants. Merci encore.